Robert E. Howard. Une sorcière viendra au monde. Chapitre 1. La lune de sang. Taramis, reine de Corran, émergea d'un sommeil peuplé de rêves, dans un silence qui évoquait plus l'immobilité de sombres catacombes que le calme habituel d'un palais endormi. Elle était étendue, scrutant les ténèbres, se demandant pourquoi les bougies de son candélabre en or s'étaient éteintes. La lueur des étoiles dessinait la forme d'une fenêtre aux barreaux dorés, qui n'apportait aucune lumière à l'intérieur de la chambre. Mais, tandis que Taramis était étendue là, elle commença à percevoir une source de lumière dans les ténèbres devant elle. Elle regarda attentivement, intriguée. La lumière grandissait et son intensité augmentait. C'était un disque de lumière vive qui s'élargissait, suspendu dans les airs, devant les tentures écarlates du mur opposé. Taramis retint sa respiration et se redressa sur sa couche. Un objet noir était visible dans ce cercle de lumière, une tête humaine. En proie à une soudaine panique, la reine ouvrit les lèvres pour appeler ses servantes, puis elle se retint. La lumière était plus vive encore, la tête plus clairement détaillée. C'était une tête de femme, petite, aux traits délicats, d'une grande dignité, avec une chevelure brune, épaisse et chatoyante. Le visage devint plus distinct tandis qu'elle regardait, et c'était la vue de ce visage qui avait arrêté le cri de Taramis. Ses traits étaient les siens. Elle aurait aussi bien pu se regarder dans un miroir déformant subtilement son reflet, lui donnant un regard carnassier, des lèvres agressives. « Par Ishtar !» s'exclama Taramis. « Je suis ensorcelée !» Comble de l'horreur, l'apparition se mit à parler, et sa voix était comme un venin qui aurait la saveur du miel. « Ensorcelée ? Non, ma chère sœur, il n'y a là aucune sorcellerie. « Sœur ? » s'exclama la jeune femme perplexe. « Je n'ai pas de sœur. » « Tu n'as jamais eu de sœur, » dit la douce voix, vénéneuse et moqueuse. « Jamais eu de sœur dont la peau était aussi tendre que la tienne, sous les caresses et sous les coups ?»« Eh bien, j'ai eu une sœur autrefois, » répondit Taramis, toujours convaincue qu'elle était prisonnière de quelque cauchemar. « Mais elle est morte. » Le beau visage dans le disque de lumière se convulsait de rage, et son expression devint si démoniaque que Taramis, se reculant, s'attendait presque à voir des cheveux se tortiller comme des serpents sur le front d'ivoire. « Tu mens !» accusa-t-elle, retroussant ses lèvres rouges. « Elle n'est pas morte, pauvre folle ! Oh, assez de ces simagrées ! Regarde, et que cette vision te consume !» La lumière inonda soudain les tentures comme si elles étaient parcourues de serpents de feu, et, inexplicablement, les bougies dans leurs candélabres d'or flamboyèrent à nouveau. Taramis se recroquevilla sur sa couche de velours, ses fines jambes repliées sous elle, regardant fixement la silhouette féline qui se campait moqueusement devant elle. C'était comme si elle regardait une autre Taramis, identique à elle-même dans le moindre contour de son corps ou de son visage, mais animée par un esprit venu d'ailleurs et maléfique. Le visage de cette étrangère reflétait l'exact contraire de ce qu'exprimait celui de la reine. La luxure et le mystère étincelaient dans ses yeux scintillants. La cruauté était tapie dans les courbes de ses belles lèvres rouges. Chaque mouvement de son corps souple était subtilement suggestif. Sa coiffure imitait celle de la reine, et à ses pieds étaient des sandales dorées comme celles que portait Aramis dans son boudoir. La tunique de soie sans manches, qui laissait voir sa gorge, tenue à la taille par une ceinture d'or, était la réplique exacte de la tenue de nuit de la reine. « Qui es-tu ? » s'exclama Aramis, tandis qu'un frisson glacé qu'elle ne pouvait s'expliquer lui parcourait l'échine. « Explique-moi ta présence avant que je n'appelle mes servantes pour qu'elles préviennent la garde. »« Tu peux crier jusqu'à ce que le toit s'écroule, » répondit froidement l'étrangère. « Tes garces ne s'éveilleront pas avant l'aube, même si le palais s'enflammait autour d'elles. Tes gardes n'entendront pas tes cris, ils ont été envoyés dans une autre aile du palais. »« Quoi ? » s'exclama Aramis, trouvant de la force dans sa majesté outragée. « Qui a osé donner à mes gardes un tel ordre ?»« Moi, ma chère sœur, » ricana la fille, « il y a quelques instants, avant d'entrer ici, ils pensaient que j'étais leur chère reine adorée. Ah, comme j'ai bien joué cette scène ! Avec quelle impérieuse dignité, tempérée par une féminine douceur, me suis-je adressé à ces brutes qui pliaient le genou avec leurs armures et leurs casques à plumes ?» Aramis étouffée. Elle se sentait prise au piège. Qui es-tu ? Cria-t-elle désespérément. Quelle folie est-ce là ? Pourquoi es-tu venu ici ? Qui je suis ? Il y avait dans sa douce réponse toute la malveillance d'un cobra. La fille alla au bord de la couche, saisit férocement les blanches épaules de la reine, et se pencha pour plonger son regard dans les yeux inquiets de Aramis. Et, dominée par ce regard hypnotique, la reine oublia l'outrage sans précédent de ce contact violent sur une peau royale. « Pauvre folle !» susurra la fille entre ses dents. « Comment peux-tu le demander ? Comment peux-tu en douter ? Je suis Salomé !»« Salomé !» Aramis murmura le nom, et ses cheveux se dressèrent sur sa tête tandis qu'elle réalisait l'incroyable, la douloureuse réalité. « Je pensais que tu étais morte dans l'heure qui avait suivi ta naissance, » dit-elle faiblement. « C'est ce que beaucoup pensent, » répondit la femme qui prétendait être Salomé. « Ils m'ont emmenée dans le désert pour que j'y meure, les maudits. Moi, un bébé vagissant et gémissant, dont la vie était si jeune qu'elle était aussi fragile que la flamme d'une chandelle. Et sais-tu pourquoi ils m'ont porté là pour que j'y meure ? J'ai entendu l'histoire, bafouilla Aramis. Salomé se mit à rire sauvagement et se frappa la poitrine. La tunique décolletée laissait voir le haut de ses seins fermes, et entre eux brillait une curieuse marque, un croissant, aussi rouge que le sang. « La marque de la sorcière !» s'écria Aramis avec un mouvement de recul. « Oui !» Le rire de Salomé était tranchant et plein de haine. « La malédiction des rois de Coran !»« Oui, il raconte cette histoire sur les marchés, en se frottant la barbe et en roulant des yeux, les pieux imbéciles. Il raconte comment la première reine de notre lignée eut commerce avec un démon des ténèbres. » Et lui donna une fille dont parlent encore les légendes d'aujourd'hui. Et par la suite, chaque siècle, une fille vint au monde dans la dynastie ascorienne avec un croissant de lune écarlate entre les seins qui annonce sa destinée. Chaque siècle, une sorcière viendra au monde, dit l'ancienne malédiction. Et ainsi en a-t-il toujours été. Certaines furent tuées à leur naissance, comme ils ont tenté de le faire avec moi. D'autres parcoururent la terre sous la forme de sorcières, fières filles de Coran, la lune infernale brûlant sur leur sein d'ivoire. Toutes furent nommées Salomé. Je suis Salomé, moi aussi. J'ai toujours été Salomé, la sorcière. Je serai toujours Salomé, la sorcière. Même lorsque les montagnes de glace seront descendues du pôle et auront réduit les civilisations en ruines, même lorsqu'un nouveau monde aura émergé des cendres et de la poussière, et même alors, il y aura encore des Salomés parcourant la terre, afin de piéger le cœur des hommes par leurs sortilèges, dansant devant les rois du monde et contemplant les têtes des hommes sages tranchées pour leur bon plaisir. « Mais tu ?» murmura Aramis. « Moi ?» Les yeux brillants brûlèrent comme des brasiers mystérieux. Ils m'emportèrent dans le désert loin de la ville et me laissèrent nu sur le sable chaud sous le feu du soleil. Et alors ils repartirent, me laissant aux chacals, aux vautours et aux loups du désert. Mais la vie en moi était plus forte que chez les autres, car elle tire son essence des forces qui bouillonnent dans les gouffres sombres, au-delà de l'entendement humain. Les heures passèrent, et le soleil me brûlait comme les flammes liquides de l'enfer, mais je ne mourus point. Oui, je me rappelle quelque chose de ces tourments, vaguement et lointainement, comme on se souvient d'un rêve vague et indistinct. Puis vinrent des chameaux et des hommes à la peau jaune, qui portaient des robes de soie et parlaient une langue étrange. Ils s'étaient écartés de la route des caravanes et passèrent près de moi, et leur chef me vit. Il reconnut le croissant écarlate sur mon sein. Il m'emporta et me donna la vie. C'était un magicien de la lointaine Kitaï, retournant vers sa terre natale après un voyage en Stygie. Il m'emmena avec lui à Paikang, la cité autour de pourpre, dont les minarets s'élèvent au-dessus des jungles de bambous envahis par les vignes. Et là, je devins femme par ses enseignements. Son âge lui avait permis d'acquérir un profond et sombre savoir, et n'avait pas affaibli ses pouvoirs maléfiques. Il m'enseigna tant de choses. Elle fit une pause, souriant de façon énigmatique, ses yeux noirs brillant d'une lueur maléfique. Puis elle rejeta sa tête en arrière. Il finit par me chasser, disant que je n'étais qu'une vulgaire sorcière, incapable d'appréhender la haute sorcellerie qu'il aurait pu m'enseigner. Il aurait pu faire de moi la reine de l'univers et aurait pu régenter les nations à travers moi, disait-il. Mais je n'étais qu'une catin des ténèbres. Et alors ? Je n'ai jamais pu supporter de m'enfermer dans une tour dorée pour passer des heures à regarder dans un globe de cristal, à murmurer des incantations écrites sur des peaux de serpent avec le sang de vierge, à examiner des grimoires moisis écrits dans des langues oubliées. Il me dit que je n'étais qu'un esprit terrestre, ignorant tout des abîmes les plus profonds de la sorcellerie cosmique. Mais ce monde contient tout ce que je désire. Le pouvoir, la pompe, les cérémonies grandioses, de beaux hommes et des femmes douces pour me servir d'amant ou d'esclave. Il m'avait révélé qui j'étais, ma malédiction et mon héritage. Et je suis revenu réclamer ce à quoi j'ai droit tout autant que toi. Maintenant tout cela est à moi, par droit de possession. Que veux-tu dire ? Aramis se releva et fit face à sa sœur, délivré de sa confusion et de sa frayeur. Imagines-tu qu'en droguant certaines de mes servantes et en trompant quelques-uns de mes gardes, tu as pu établir ton droit au trône de Khoran ? N'oublie pas que je suis la reine de Khoran. Je peux t'offrir une place d'honneur en tant que sœur, mais... Salomé rit haineusement. Comme tu es généreuse, ma chère, ma douce sœur. Mais avant que tu ne songes à la place que tu me réserves, peut-être me diras-tu à qui sont ces soldats qui campent sous les murs de la ville ? Ce sont les mercenaires chémites de Constantius, le voïvode Cotte des compagnies franches. Et que font-ils à Khoran ? Roucoula Salomé. Aramis comprenait qu'elle se moquait subtilement d'elle, mais elle répondit avec un sentiment de dignité qu'elle était loin d'éprouver. Constantius a demandé la permission de passer le long des frontières de Khoran pour se rendre à Turan. Lui-même est mon otage pour garantir le bon comportement de ses troupes tant qu'elles sont sur mon domaine. « Et Constantius, poursuivit Salomé, n'a-t-il pas demandé ta main ce jour même ?» Aramis lui lança un regard soupçonneux. « Comment le sais-tu ? » Salomé se contenta de hausser les épaules avec insolence pour toute réponse. « Et tu as refusé, ma chère sœur ? Évidemment, j'ai refusé, s'exclama Aramis avec colère. Comment peux-tu supposer, toi, une princesse ascorienne, que la reine de Corane ait pu traiter une telle proposition autrement que par le mépris? Épouser un aventurier aux mains pleines de sang, un homme exilé de son propre royaume en raison de ses crimes, et le chef d'une bande de pillards et de meurtriers sanguinaires. Je n'aurais jamais dû l'autoriser à amener ces tueurs à barbe noire en Corane. Mais il est virtuellement prisonnier dans la tour sud, gardé par mes soldats. Demain, je lui demanderai d'ordonner à ses troupes de quitter le royaume. Lui seul restera captif jusqu'à ce qu'elles aient franchi la frontière. En attendant, mes soldats gardent les murs de la cité, et je l'ai averti qu'il répondrait de toutes les exactions perpétrées par ses mercenaires sur les villageois ou les bergers. « Il est retenu dans la tour sud ?» demanda Salomé. « C'est ce que j'ai dit. Pourquoi le demandes-tu » Pour toute réponse, Salomé tapa dans ses mains, et, élevant la voix avec un gloussement de joie cruelle, elle appela « La reine t'accorde une audience, faucon !» Une porte aux arabesques d'or s'ouvrit et une haute silhouette pénétra dans la pièce. À cette vue, Aramis s'écria d'une voix pleine d'étonnement et de colère « Constantius, tu oses entrer dans ma chambre ?»« Comme tu le vois, Majesté !» Et il inclina sa tête sombre, semblable à celle d'un faucon, en une cruelle parodie d'humilité. Constantius, que ses hommes appelaient le faucon, était grand et large d'épaules. Sa taille était étroite et il était fort et souple comme l'acier. Il était beau et sans pitié comme le sont les aigles. Son visage était brûlé par le soleil et sa chevelure, longue derrière son front haut et étroit, était aussi noire que celle du corbeau. Ses yeux sombres étaient vifs et pénétrants. La dureté de ses lèvres étroites n'était pas tempérée par ses fines moustaches noires. Ses bottes étaient en cuir cordovan, et sa culotte et son pourpoint étaient faits de soie noire, usés par la vie de camp et souillés par la rouille de son armure. Tortillant sa moustache, il promenait son regard de haut en bas sur la reine, avec une effronterie qui la faisait se recroqueviller sur elle-même. « Par Ishtar, Aramis, dit-il d'une voix doucereuse, « je te trouve plus attirante dans ta tenue de nuit que dans tes robes de reine. » Vraiment, voilà une nuit qui promet. La peur était apparue dans les yeux noirs de la reine. Elle savait que Constantius ne se serait jamais permis un tel outrage s'il n'avait été absolument sûr de lui. « Tu es fou, dit-elle. Si je suis en ton pouvoir dans cette chambre, tu n'en es pas moins au pouvoir de mes sujets qui te mettront en pièces si tu oses me toucher. Pars à l'instant si tu veux vivre. » Les deux autres partirent d'un rire moqueur, et Salomé eut un geste d'impatience. « C'en est assez de cette farce. Passons à l'acte suivant de la comédie. Écoute-moi, ma chère sœur, c'est moi qui ai fait venir Constantius ici. Quand j'ai décidé de m'emparer du trône de Corane, j'ai cherché un homme qui pourrait m'aider. Et j'ai choisi le faucon, parce qu'il manque totalement de toutes ces caractéristiques qui constituent ce qu'on appelle la bonté. « Je suis très honoré, princesse, » murmura Constantius sardoniquement, avec une profonde révérence. Je l'ai envoyé à Corane, et une fois que ses hommes étaient installés dans la plaine au dehors, et lui dans le palais, je suis entré dans la cité par cette petite porte dans le mur ouest. Les imbéciles qui la gardaient ont cru que c'était toi qui revenais de quelque aventure nocturne. Diablesse ! Les joues de Aramis s'empourprèrent, et sa colère eut raison de la retenue royale dont elle avait fait preuve jusque-là. Salomé sourit cruellement. Ils étaient tout à fait surpris et choqués, mais ils me laissèrent passer sans aucune question. Je suis rentré dans le palais de la même façon et j'ai donné aux gardes surpris l'ordre de s'éloigner, et de même pour ceux qui gardaient Constantius à la tour sud. Et puis je suis venu ici, m'occupant de tes suivantes en passant. » Aramis serrait les poings et pâlissait. « Bien, et maintenant ? » demanda-t-elle d'une voix agitée. « Écoute !» Salomé inclina la tête. Au loin, on entendait le cliquetis des armures d'hommes en marche, Des voix bourrues criaient dans une langue étrangère et se mêlaient à des cris d'alarme. « Les gens se réveillent et prennent peur, » dit Constantius d'un ton sardonique. « Tu ferais mieux d'y aller et de les rassurer, Salomé. »« Appelle-moi Taramis, » répondit Salomé. « Nous devons nous y habituer. » « Qu'avez-vous fait ? » cria Taramis. « Qu'avez-vous fait ?»«
Je suis allé aux portes et j'ai ordonné aux soldats de les ouvrir, » répondit Salomé. « Ils étaient étonnés, mais ils ont obéi. Ce que tu entends, c'est l'armée du faucon qui marche dans la cité. »«
Démon ! » s'écria Taramis. « Tu as trahi mon peuple sous mon apparence. Tu m'as fait passer moi-même pour une traîtresse. Oh, je vais aller les voir !»
Avec un rire cruel, Salomé l'attrapa par le poignet et la repoussa en arrière. La magnifique souplesse de la reine était sans effet face à la colère qui animait le bras de Salomé.
« Tu sais comment rejoindre le donjon depuis le palais, Constantius ?» demanda la sorcière.
« Bien, emmène cette vilaine fille et enferme-la dans la cellule la plus sûre. »
« Les geôliers sont tous profondément endormis, j'y ai veillé. »
« Envoie un homme leur trancher la gorge avant qu'ils se réveillent.
Personne ne doit savoir ce qui s'est passé cette nuit. À partir de maintenant, je suis Taramis. Et Taramis est une prisonnière oubliée dans un cachot sans nom. »
Constantius sourit et ses dents de carnassier brillèrent sous sa fine moustache.
« Très bien, mais tu ne me refuseras pas un petit amusement avant ?»
« Certainement pas, mais tu peux dompter cette garce méprisante autant que tu voudras. »
Avec un rire mauvais, Salomé envoya sa sœur dans les bras de l'homme de côte et sortit par la porte qui donnait sur le couloir. Les beaux yeux de Taramis s'écarquillaient de terreur et son corps souple se raidissait dans les bras de Constantius. Elle oublia les hommes qui marchaient dans les rues, elle oublia l'outrage qui était fait à sa majesté, face à ce qui la menaçait en tant que femme. Elle oublia toute autre sensation que la terreur et la honte, tandis qu'elle affrontait l'absolu cynisme du regard enflammé et moqueur de Constantius, et qu'elle sentait ses bras implacables écraser son cœur meurtri. Salomé, qui courait dans le couloir à l'extérieur, sourit cruellement, tandis qu'un hurlement de désespoir et de douleur faisait trembler le palais.